Il est 6h30 à Dakar et à Abidjan. Bon réveil à vous à l'écoute des RFI, 8h30 à Paris. Bonjour Edouard Dupénoat.
Bonjour à toutes et à tous.
L'actualité africaine avec vous et le Sénégal à la une après le naufrage au large de Mbour.
36 corps sans vie ont été retrouvés après que cette embarcation a chaviré. Un premier suspect a d'ailleurs été interpellé dans cette enquête. Il y a un an, deux barrages cédaient en amont de la ville libyenne de Derna. Les eaux engloutissaient des quartiers entiers de cette cité de l'est du pays, des milliers de morts. Bilan encore trouble, à l'image des responsabilités autour de cette catastrophe. Un premier anniversaire que vient percuter l'actualité au Nigeria. Inondation monstre aussi à Maïdougouri dans l'état de Borno. Ici encore, après qu'un barrage a cédé. Nous sommes en Côte d'Ivoire dans ce journal. Sensibilisation accrue hier pour la journée de prévention du suicide.
Et puis à Brazzaville pour le dossier musical de cette édition.
Oui, disons Brazzaville parce que c'est là que se tenait le festival dont on vous parle dans 10 minutes. Mais ce sont les Congos dont il est en fait question, et peu importe la rive du fleuve dont on parle.
Une première avancée pour l'enquête ouverte au Sénégal après le naufrage d'une pirogue.
À 36 corps sans vie repêchés donc par la marine sénégalaise. L'embarcation a chaviré il y a 72 heures après avoir quitté Mbour en direction de l'archipel espagnol des Canaries. 24 personnes ont pu être retrouvées en vie, mais la pirogue transportait sans doute 150 passagers. On apprend donc, Léa Lisa Westerhoff, que le principal suspect dans l'organisation de cette traversée clandestine a été arrêté.
Ironie du sort, le capitaine et propriétaire de la pirogue qui a chaviré dimanche, un certain Chersal, est aussi le demi-frère du maire de Mbour. Bien connu de la population, Chersal aurait déjà organisé plusieurs voyages de migrants clandestins. Un grand nombre de disparus vient d'ailleurs du même quartier que lui. Mais lundi soir, le capitaine de la pirogue se serait finalement rendu de lui-même à la police, selon le préfet de Mbour, Amadou Diop. Le pêcheur de 52 ans a ensuite été interrogé par la Division nationale de lutte contre le trafic des migrants à Sali, un département spécialisé de la police. Selon le quotidien L'Observateur, l'organisateur du voyage était lui-même à bord au moment du drame, mais a réussi à nager jusqu'à la plage. Aux enquêteurs, il aurait affirmé avoir embarqué 88 passagers, moyennant des sommes comprises entre 300 000 et 400 000 francs CFA, mais qu'au final, beaucoup plus seraient montés à bord. Placé en garde à vue depuis lundi soir, Chersal devrait être rapidement déféré devant le juge. Léa Lisa Westerhoff, Dakar, RFI.
Un an tout juste après le drame de Derna, la ville se relève mais peine encore à tout comprendre. Le 11 septembre 2023, cette ville de Cyrénaïque dans l'est de la Libye se réveillait en grande partie sous les eaux. Deux barrages en amont n'avaient pas résisté aux pluies diluviennes. Ils avaient lâché leurs eaux sur des pans entiers de cette cité. 4, peut-être 5 000 morts selon les bilans officiels, au moins 40 000 déplacés. Il y a un mois, 12 fonctionnaires chargés de la gestion des barrages ont été condamnés à des peines allant jusqu'à 27 ans de réclusion. Mais des ONG comme Amnesty International déplorent que l'enquête se soit arrêtée à mi-chemin. Écoutez ce qu'en dit Bassam Alkantar, il est chercheur pour Amnesty et fin connaisseur de la Libye.
Amnesty International appelle toujours à la mise en place d'un mécanisme international d'enquête sur la situation des droits humains en Libye. Et nous avons tout particulièrement lancé cet appel après la catastrophe de Derna. Nous pensons que c'est la seule façon de pouvoir faire toute la lumière sur les événements et sur les circonstances qui ont mené à ces décès et à ces destructions suite au passage de la tempête Daniel. Nous avons suivi la décision rendue par la justice libyenne et l'enquête menée par le bureau du procureur général. Mais nous sommes surpris de voir que seuls des fonctionnaires de niveau inférieur ou intermédiaire ont été traduits en justice. 12 des 16 personnes poursuivies ont été condamnées en juillet dernier. Pour nous, cela prouve encore une fois que seule une enquête et une juridiction internationale pourraient aboutir à la justice pour les victimes de Derna et pour tout le territoire de la Libye également.
Bassam Alkantar, chercheur pour Amnesty International sur la Libye, propos recueillis par Magali Lagrange. Derna, une tragédie et des controverses, c'est aussi un éclairage signé de Houda Ibrahim que vous pouvez lire en ligne sur RFI.fr. Rappel cruel de cette catastrophe, au Nigeria ce sont des faits similaires qui se sont produits il y a près de 48 heures. Maïdougouri, la grande ville de l'état de Borno, a vu déferler une vague dévastatrice après l'effondrement d'un barrage. Il n'est pas encore possible de chiffrer un quelconque bilan humain, mais Frédéric Gara a pu joindre sur place un habitant qui lui décrit déjà l'ampleur des dégâts.
C'était vraiment catastrophique. Et je peux dire que tous les ponts qui sont en ville, tout est inondé. Il ne reste qu'un seul pont, là où vraiment les gens circulent pour le moment pour entrer dans un autre côté de la ville. 2 mètres d'hauteur, hein. Certains endroits, 3 mètres, je te dis, parce que ça avalait certains poteaux électriques. Pour le moment, bon, il y avait eu des secours, mais pas tout le monde en tant que tel. Parce qu'il y a certains gens, jusqu'à présent, ils sont toujours dans l'eau, plus loin de la ville, parce qu'il y a de certains endroits où les gens ne peuvent pas aller ou la voiture. Parce que on ne sait pas s'il y a peut-être des carnivores quelque part, ils ne veulent pas vraiment ce qu'ils entrent dedans. Donc, c'est des camions, des bennes qui partaient prendre certains gens qui sont proches, certains gens qui se sont approchés de la route. C'est comme ça que les voitures, le secours vient vers eux, quoi.
L'Agence de gestion des catastrophes du Nigeria annonçait tout à l'heure que 150 000 personnes étaient déjà touchées par ces inondations. Les écoles vont être fermées pour les 2 prochaines semaines et puis mise en garde un peu plus inhabituelle de la part des autorités. Elles indiquent que des crocodiles et des serpents se sont échappés d'un zoo à cause de la catastrophe et qu'ils peuvent représenter un danger potentiel pour les riverains.
Un rendez-vous, Edouard, dans RFI Matin, 9h20, question d'environnement. Avec Stéphanie Schuller, on verra comment l'urbanisation galopante aggrave les inondations. À partir de l'exemple des inondations de ces derniers jours en Inde, dans l'état du Gujarat. 8h36 à Paris, 2h de moins à Bamako, Idrissa Sankaré est libre.
L'ancien député de Bankass, dans le centre du Mali, relâché et de retour chez lui hier matin. Idrissa Sankaré, également l'une des figures de l'organisation Tabital Poulakou, elle défend les droits des Peuls et leur culture en général, selon nos informations. Il était détenu en dehors de toute procédure légale par les services de la sécurité d'État. Le Mali, dont les magistrats ont en passe d'obtenir un statut un peu différent. C'est une ordonnance qui, pour l'instant, a été adoptée en Conseil des ministres et que le CNT, Conseil national de transition, doit encore ratifier. Pas de changement majeur dans le statut des magistrats maliens, mais un encadrement tout de même un peu plus ferme de leur liberté d'expression. David Baché.
Parmi les principales nouveautés, un abaissement du niveau requis. Il fallait jusqu'à présent une maîtrise de droit pour passer le concours de la magistrature. Dorénavant, une simple licence suffira. La section des comptes de la Cour suprême devient une cour des comptes à part entière pour répondre aux exigences de l'UMOA. Il y a un an, l'ancien premier avocat à la Cour suprême du Mali, Cheikh Mohamed Chérif Kone, était radié de la magistrature pour avoir estimé que la justice malienne était manipulée par les autorités de transition. Des déclarations faites dans le cadre de ses mandats syndicaux. Dans ce contexte, une nouvelle disposition interpelle, selon laquelle les magistrats peuvent jouir des mêmes libertés publiques que tout citoyen malien, syndical ou d'expression notamment, mais qu'ils doivent les exercer dans le respect de l'autorité de l'État et de l'ordre public. Oumar Berthé, avocat malien et chercheur en politique et droit public.
Ces conditions sont très larges, exprimées de manière vague, ce qui est susceptible d'exposer les magistrats. À quel stade on considérerait que le magistrat aurait franchi la ligne qui remettrait en cause l'autorité de l'État? Ou à quel stade la participation des magistrats dans une association apolitique ou syndicale pourrait s'assimiler à un trouble à l'ordre public? C'est la grande question. Ça risque de peser sur eux.
Depuis le début de la période de transition au Mali, il y a 4 ans, d'innombrables procédures judiciaires ont été lancées contre des personnes ayant critiqué la gestion des autorités en place, généralement pour opposition à l'autorité légitime ou atteinte au crédit de l'État.
À précision de David Baché.
En Côte d'Ivoire, une journée de sensibilisation pour la Journée mondiale de prévention du suicide.
L'Organisation mondiale de la santé estime qu'au niveau mondial, 9 personnes sur 100 000 se donnent la mort et c'est un chiffre qui monte même à 11 sur 100 000 pour le continent africain, sauf que l'acte de se donner la mort reste encore très largement tabou, voire criminalisé dans plusieurs pays d'Afrique, d'où cette journée de pédagogie, notamment en Côte d'Ivoire, à l'adresse notamment des professionnels de santé, mais aussi des étudiants et des responsables d'ONG, particulièrement au niveau communautaire. On rappelle, Binta Diagne, que le ministère de la Santé recensait près de 420 cas de suicide entre 2019 et 2021.
Miss Zézé Dressia est étudiante. Elle expose une série de clichés sur la dépression, car cette jeune est elle-même passée par là.
Au niveau de ma relation avec mes parents, c'était très compliqué, avec ma mère, avec mes frères. Et à plusieurs reprises, j'ai voulu en finir avec ma vie, mais je ne l'ai pas fait parce que j'ai trouvé la valeur de mon existence. Je me suis dit, j'ai encore le temps, je suis jeune.
Cette étudiante affirme ne pas avoir trouvé d'aide à cause notamment du poids de la société.
C'était difficile pour moi de me confier à quelqu'un parce que tu as peur qu'on te juge, tu as peur qu'on... on te pointe du doigt, donc tu gardes tout pour toi en fait.
Les autorités sanitaires ont décidé de mettre l'accent sur l'écoute et sur le recrutement de plus de psychologues dans les hôpitaux publics. Professeur Medakoua, le directeur du programme national de la santé mentale.
Avec le 143, c'est un dispositif d'accès psychologique gratuit, anonyme en ligne, où il y a des jeunes psychologues de niveau master qui sont là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour pouvoir apporter déjà en ligne un premier soutien psychologique. Derrière cela, il va y avoir d'ici 2025 le recrutement des premiers psychologues à la fonction publique pour que la consultation chez un psychologue ne soit pas faite essentiellement dans le privé.
Ce responsable mise par ailleurs sur la visibilité autour de deux centres de prise en charge psychologique dans le Grand Abidjan et sur la construction prochaine d'un nouvel hôpital psychiatrique à Bingerville. Bintadiane Abidjan.
On rappelle que le ministère ivoirien de la Santé a mis en place un numéro gratuit, le 143, pour offrir des services de soutien à toute heure du jour et de la nuit.
8h41, le dossier de cette édition, Edouard, sur les rives du fleuve Congo, du côté de Brazzaville. Mais est-ce vraiment important après tout ?
Oui, disons que c'est là, en tout cas, que viennent de brûler pendant 4 jours les feux de Brazzaville. Festival de musique traditionnelle, ancestrale même. Loïcia Martial y a d'abord déambulé pour recueillir l'attachement du public congolais à toutes ces sonorités.
Nous sommes dans la cour arrière de la mairie de Mfilou, 7e arrondissement de Brazzaville. Au milieu de ses amis, Eden Mayingidi, 43 ans, est relié à son tam-tam par un fil jaune. Cette vedette de l'association Kibuisaku Congo exprime en rythme son émotion.
La musique traditionnelle, c'est ça notre socle, notre identité. En tant qu'Africains que nous sommes, c'est là où nous tirons les messages laissés par nos aïeux. Donc, c'est ça la tradition.
Le soleil se couche. Les derniers rayons chauffent les groupes qui jouent pour une foule diversifiée et multicolore. Delor Nzaba, la trentaine révolue, et ses amis apprécient ces moments riches en tout point.
Oui, évidemment, la musique traditionnelle permet à ne pas oublier nos valeurs. Parce qu'on dit en Afrique, oublier sa tradition, c'est perdre complètement ses valeurs. Et lorsqu'on oublie ses origines, la tradition, c'est carrément dangereux.
Mais au moins, la musique traditionnelle, c'est la vraie musique où on peut écouter les vraies paroles, les conseils également aussi, qui peuvent nous éduquer pour aller un peu plus loin dans notre carrière. C'est une musique originale.
Si les feux de Brazza se sont éteints hier soir, ils se rallumeront en 2026. Loïcia Martial, Brazzaville, RFI.
Alors que l'on soit du côté du Congo-Brazzaville ou de la République démocratique du Congo, les musiques traditionnelles des deux pays sont aussi proches que le sont leurs capitales. C'est en tout cas le point de vue de Gervais Hugues Ondaï, promoteur du Festival Populaire et International. Conserver ces musiques, éviter leur disparition, c'est la mission première de ces rencontres.
La RDC et le Congo ne sont qu'un seul pays, culturellement parlant. On a les mêmes langues, l'art culinaire est presque le même. Donc, au fait, le même rythme, on le retrouve dans la RDC et comme au Congo-Brazzaville. C'est la mère des musiques. Il faut savoir que si on parle du postulat que le premier être sur la terre est parti de la musique et que le premier son de l'homme sur la terre, c'est de chanter, parce que pleurer, c'est chanter. Donc, on suppose que la musique est partie de l'Afrique. Et donc, la mère des musiques ne doit pas disparaître. Le problème que nous avons, c'est que cette musique est menacée de partout, avec les nouveaux genres de musique qui arrivent. Et elle est reléguée à la périphérie. Et notre travail, c'est de faire en sorte que ces musiques ne disparaissent pas. Et d'où le travail de recherche, de documentation et de promotion que nous essayons de faire modestement depuis la création de ce festival en 2005.
Et un dossier coordonné par notre correspondant Loïcia Martial.
Merci Edouard Dupénoat, à tout à l'heure.